Le journal Ramambaï.
La méningite tue à Tandombelo, Bandundu, 28 morts en deux jours seulement sur les 35 malades enregistrés. Mystère pour l'instant quant aux causes de cette maladie. L'arrestation des Congolais en séjour en Zambie préoccupe les autorités congolaises et zambiennes. Le ministre zambien des Affaires étrangères a même présenté ses excuses pour l'arrestation de 3 diplomates congolais. Au sud Kivu, les éléments de la police d'intervention rapide se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Ces policiers dépêchés pour sécuriser la ville de Bukavu dorment à même le sol dans un hangar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le village Tandombelo dans le district du Maïndombe face à la recrudescence de la méningite. 28 morts en deux jours seulement sur les 35 malades enregistrés dans cette partie du Bandundu. Et c'est toujours le mystère quant aux causes de cette maladie. Mais notez qu'une équipe d'experts est déjà à Tandombelo pour étudier cette maladie. Plus de précisions avec le médecin directeur de l'hôpital de référence de Nyoki dans le district du Maïndombe. Docteur Justin Pia était joint au téléphone par Donna Madimba.
D'après les statistiques à notre disposition, il y a eu 35 cas jusqu'hier avec 28 décès. Alors, nous avons fait nos déclarations au niveau de la province et puis de Kinshasa. Les médecins sans frontières ont déjà réagi parce qu'il y a une délégation sur place ici qui se déplacera demain pour Tandembelo en attendant un kit de médicaments pour faire face à cette épidémie.
La méningite, pour ceux qui ne le savent pas, est une maladie qui tue. Elle est caractérisée par des maux de tête, une raideur de la nuque et de la fièvre, comme l'explique Donna Madimba.
La méningite est une infection qui attaque la tête au niveau du cerveau et de la moelle épinière. On l'appelle méningite parce que ces parties de la tête où la maladie se manifeste le plus sont familièrement appelées méninges. Selon les médecins, on distingue généralement deux formes essentielles de méningite, la méningite virale et la méningite bactérienne. La méningite virale, forme la plus répandue de la maladie, est généralement causée par un virus, et la méningite bactérienne, causée par des bactéries. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, la méningite provoque presque toujours des forts maux de tête, une grosse fièvre, le cou qui bloque et des vomissements. Pour soigner la méningite, il faut aller voir un médecin qui prescrira le traitement approprié. Il s'agit pour les médecins de soulager les parties de la tête attaquées par l'infection. Notez que le traitement de la méningite existe bel et bien, mais que se soigner tout seul, c'est vraiment dangereux.
Dans le chapitre politique de ce journal, quelle réponse la Cour suprême de justice va-t-elle réserver aux requêtes de demande d'invalidation de la candidature de Joseph Kabila au présidentiel? Difficile de le savoir pour le moment, mais depuis la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République retenue par la CEI, certains partis politiques, notamment la Convention chrétienne pour la démocratie, le Front patriotique et le Mouvement de solidarité pour le développement, dénoncent le statut militaire que porterait jusqu'alors Joseph Kabila. Alors que la question se pose, le journal officiel numéro 7 du 1er avril 2006 vient de publier un décret présidentiel portant acceptation de la démission volontaire de Joseph Kabila des forces armées de la RDC. Ce décret, signé le 15 mars dernier, intervient après que le chef de l'État se soit fait enrôler comme électeur l'année dernière. Est-ce une confusion? Non, explique Maître Nkulu Kilembo, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions juridiques.
Le 15 mars, le chef de l'État a signé le décret portant acceptation de la démission d'un officier général.
Mais le général-major Joseph Kabila introduit sa requête afin d'obtenir acceptation de sa démission volontaire de l'armée. Requête adressée à lui-même le 14 mars 2005. Il accepte sa propre démission volontaire le 15 mars 2006, soit une année après. Pouvons-nous admettre que Joseph Kabila s'est fait enrôler comme électeur en ayant le statut militaire?
Que dit la loi relative à l'enrôlement? L'article 9 dit « Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs les militaires et policiers en fonction. » Au moment de l'enrôlement, il est militaire, mais il n'occupe pas de fonction militaire. Maintenant, il fait dépouiller de sa qualité de général-major. On doit donc distinguer l'enrôlement qui est régi par une loi spécifique, les élections dont les conditions sont prévues par une autre loi.
La commission électorale indépendante, pour sa part, dit avoir respecté la loi. Si des questions se posent sur des personnes qui sont militaires ou pas, il faut s'adresser au ministère de la Défense et à l'état-major des FARDC. Ceux-ci ont soumis la liste des officiers militaires en fonction, comme le dit l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui est au micro d'Innocent Olenga.
Lors de l'enregistrement des électeurs, rappelez-vous, que disait la loi? La loi parlait de militaires en fonction. Pour moi, je n'avais qu'à m'adresser, et ça c'est le bureau de la commission électorale, au ministre de la Défense, au chef d'état-major de l'armée. Ces deux autorités habilitées à dire si quelqu'un est en fonction ou pas, ont donné la liste des officiers généraux en fonction. Là s'arrête le travail de la commission électorale indépendante. Maintenant, la démission dans l'armée, tout ça, ça c'est une procédure qui ne nous concerne pas. Ça c'est une procédure qui concerne l'armée. Vous parlez des décrets, ce décret ne m'intéresse pas. Moi, je vous parle du moment où la commission électorale indépendante a décidé de l'enregistrer comme électeur. Ne me demandez pas moi des comptes pour savoir si quelqu'un est militaire. Demandez des comptes au ministre de la Défense. Demandez des comptes au chef d'état-major de l'armée. Demandez des comptes au conseil supérieur de la Défense.
Les autorités congolaises et zambiennes préoccupées par l'arrestation des Congolais en séjour en Zambie, l'ambassadeur de la RDC en Zambie, Johnson Baelongandi, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Romi Chikapacha, ont eu un entretien lundi dernier à ce sujet. Une liste provisoire des Congolais victimes de dérapage par des agents de l'ordre zambien a été remise au ministre. 5 Congolais ont trouvé la mort dans les maisons de détention zambiennes depuis le déclenchement des arrestations des Congolais accusés de séjour irrégulier, a déclaré l'ambassadeur congolais. Les détails avec Clara Kambundi.
Le ministre zambien des Affaires étrangères a présenté des excuses pour l'arrestation de 3 diplomates congolais du consulat général de Ndola le 20 mars dernier. Quant à la situation actuelle des arrestations des Congolais à Lusaka, le ministre zambien des Affaires étrangères a promis de poursuivre le dossier avec son homologue de l'intérieur. Des précisions données à la radio Okapi par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie, Johnson Baelongandi, qui précise que depuis cette rencontre, le ministre zambien des Affaires étrangères, aucune arrestation n'est signalée à Lusaka.
Pour ce qui est de l'arrestation à Mufulira, des 3 diplomates congolais du consulat général de Ndola, Chikapacha a présenté séance tenante des excuses de son gouvernement. Depuis cette rencontre, on a pu signaler des arrestations à Lusaka.
Rappelons que, selon l'ambassadeur Baelongandi, depuis le déclenchement des arrestations des Congolais accusés de séjour irrégulier en Zambie, au moins 5 personnes ont déjà trouvé la mort dans les maisons de détention zambiennes, et cela en l'espace de 3 mois.
Inquiétude des populations de Lubao, à 450 km au sud de Mbujimayi. Les habitants et même les autorités de ce territoire du Kassai-Oriental dénoncent les méthodes des agents de l'Agence nationale des renseignements. Ces services n'hésitent pas à user de la force pour exiger des sommes allant de 200 à 12 000 francs congolais à tous les revendeurs, sans préciser le motif. De son côté, l'inspecteur de l'ANER rejette toutes ces accusations. Nick Mputu.
La population de Lubao s'insurge contre les méthodes appliquées par le chef de poste de l'ANER. Selon les témoignages de certains habitants, ce chef de poste aurait recruté plus de 600 personnes sur l'ensemble du territoire qui ont mission de percevoir de l'argent auprès de toute la population. En cas de refus ou d'incapacité à payer, ces agents utilisent l'intimidation et la force. Principales victimes, les commerçants de la place, témoignage de l'un d'entre eux.
Ce sont les agents de l'ANER qui m'ont pris, ils m'ont demandé 5000 francs de ma colo. J'ai dit que je n'avais pas cet argent et quand nous sommes partis en cours de route, ils m'ont pris et commencé à me frapper en me déshabillant. Je suis resté nu au milieu des gens sur l'avenue du 24. Il y a d'autres personnes qui ont subi les mêmes sorts, elles sont là.
Inquiet face à la multiplication des plaintes, l'administrateur du territoire Jean-Marie Kasongo déclare avoir convoqué à plusieurs reprises des réunions extraordinaires sans solution. Toujours selon lui, le responsable de l'ANER se réclame en droit de mener de telles actions et ignore toute autre autorité. Contacté par Radio Kapi, l'inspecteur de l'ANER Valérie Lumpungu rejette les accusations faites à son endroit et attribue ses plaintes à des mauvaises interprétations de la part de la population sans autre précision. Mbujimayi, Nikem Poutou, Radio Kapi.
Autre inquiétude, celle des éléments de la police d'intervention rapide dépêchés pour sécuriser la ville de Bukavu au sud Kivu. Ils se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Plus d'une centaine de policiers bien équipés sont arrivés ce week-end. Ils sont là pour renforcer les patrouilles de nuit qui ont été mises en place pour sécuriser certains quartiers de Bukavu. Et depuis dimanche, ces policiers vivent dans le hangar de la Société nationale des chemins de fer au bord du lac Kivu. Explication Jean Kassami.
Sur place, certains policiers se plaignent de mauvaises conditions de vie depuis leur arrivée à Bukavu. Ils vivent dans un hangar exposé au regard de tous les passants, dorment à même le sol et disent être mal nourris. Selon l'inspecteur divisionnaire adjoint et commandant national de la PIR, c'est à la province de prendre en charge les logements de ces policiers. On écoute le général Mouchir Yav Filemon.
Quand les policiers font mouvement de Kinshasa vers la province, totalement ils sont à la disposition des inspecteurs de la province en question. Cela n'engage pas les commandants des empires, mais le gouvernement de la ville province en question et l'inspecteur provincial de la police nationale, ils doivent prendre les choses à main.
De plus, ces policiers se plaignent de ne pas avoir reçu des frais d'émission et d'avoir laissé leur famille sans argent. On écoute à nouveau la réponse du général Mouchir Yav Filemon.
Nous, dans l'armée, quand nous partons dans une mission de 2000 hommes, 4000 hommes, on n'a jamais reçu les frais individuels comme vous le pensez. Nous ne sommes pas comme des civils. Nous avons des fonds propres, les fonds de ménage, les fonds de recherche, les fonds de santé. Et tout cela, on donne à un commandant qui va gérer ça au nom de tous ces éléments qui sont partis.
Toujours selon le général Mouchir Yav Filemon, 134 autres policiers de la force d'intervention rapide ont quitté Kinshasa ce mardi pour venir en renfort à Bukavu. De Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Des coups de feu ont été entendus hier soir autour de la prison de Kasapa, Lubumbashi. Selon certaines sources, la police de garde de la prison a tiré pour empêcher une éventuelle évasion prisonnière. Ces coups de feu ont été entendus entre 19h et 22h locales. Pendant ce temps, la prison était dans le noir. Le calme est revenu vers 23h et la prison a été éclairée. Lissala n'est plus un centre des examens d'État pour l'édition 2006. Ce centre est déplacé par les organisateurs à Mondongo, localité située à plus de 30 kilomètres du chef-lieu du district. Le nouvel emplacement du centre des examens d'État ne rencontre pas l'assentiment tant des finalistes que de leurs parents. Cette relocalisation du centre permet d'éviter des tricheries pendant les épreuves, ont signifié les autorités de l'enseignement en place. Reportage Régine Beaucoup.
Sur 3 centres de passation des examens d'État opérationnels chaque année à Lissala, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul qui y est maintenu. Les deux autres sont désormais installés à Mondongo et à Boyangé, respectivement à 30 et 40 kilomètres de Lissala. Ceci a fait que la plupart des finalistes du chef-lieu de la Mongala, qui avaient l'habitude de recevoir leurs collègues de l'intérieur, se sont vus obligés de faire les mouvements contraires. Selon Maurice Moutingo, proviseur intérimaire, la relocalisation du lieu de passation de l'épreuve des examens d'État dans ces territoires permet aux finalistes d'affronter eux-mêmes ces examens, car on a observé du désordre et de la tricherie pendant le déroulement de ces épreuves. La même source indique que le plus souvent, ce sont des professeurs et les préfets qui sont pointés du doigt. Ils organisent les laboratoires pour faciliter la réussite de leurs élèves. Malgré des raisons avancées par les autorités de l'enseignement en place, pour les parents, ces déplacements des centres, c'est une charge qui, pour eux, ils devront désormais chercher un budget supplémentaire. Bien que cela, les élèves ainsi que leurs parents sont obligés de se soumettre à cette instruction du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Lissala Ngomba, Régine Bokoumanzango, Radio Okapi.
Province orientale, le diocèse de Wamba aura bientôt ses premiers enseignants pygmées. Sur un total de 300 classes, 5000 pygmées fréquentent l'école. Selon le père Franco Lodani, responsable de la commission pastorale des pygmées au diocèse de Wamba, ses élèves du secondaire seront recrutés comme enseignants en vue de stimuler leurs semblables à poursuivre les études. On écoute le père Franco au micro de Jacques Moukonkolé.
Suivant ces enfants, et nous avons proposé un cycle court pour avoir un peu avec vitesse des enseignants pygmées et encourager les autres. Mais déjà, parmi ce groupe d'enfants qui se trouve à Bayenga, il y a quelqu'un qui a demandé, non, mon père, moi je vais suivre le cycle long. Parmi ces pygmées, il y a quand même quelqu'un qui mérite et qui promet très bien. Je vous ai dit qu'en troisième année, le premier de la classe, c'est un pygmée avec 68%. Donc nous avons de bons espoirs que si nous continuons à assister ces enfants, surtout en brousse, afin qu'ils puissent persévérer à l'école jusqu'en sixième, l'année prochaine à Bayenga, nous envisageons une quarantaine d'élèves à l'école secondaire.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Le prochain journal en français, 8h, heure de Kinshasa.